Interview.
100.5 FM, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Dominique Vidal, présidente de l'association ADES, l'association d'entraide sociale, et Déborah Gazit, nouvelle directrice de cette association qui est en poste depuis une semaine. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors vous êtes venu pour faire un petit point et rappeler les missions de cette association qui est essentielle aux personnes âgées dans le DIWA. Qu'est-ce que l'ADES et un petit historique justement?
Alors un petit historique, l'ADES c'est une association qui aura 50 ans en 2015. Donc c'est une belle vieille association du DIWA qui était d'abord très proche de la mairie. C'était un peu un service de la mairie. Pourquoi? Ça fait partie des prérogatives d'une collectivité territoriale que de se soucier de ses anciens et de faire le nécessaire pour qu'ils puissent rester aussi longtemps qu'il se peut à leur domicile. Ce qui est un enjeu extrêmement compliqué dans notre DIWA, parce que ça veut dire rester chez soi, dans les villages un peu reculés, au bout d'un chemin, dans une ferme, etc. Donc cette association, si vous voulez, elle a un fondement social évident, un lien évident avec les collectivités territoriales. Et depuis cette période, elle a vécu des choses, disons, extrêmement variables, des périodes compliquées. Et on se souvient trop souvent de l'ADES pour ces périodes financières compliquées, en particulier en 2009, par exemple, et à nouveau en 2013. Donc c'est une association, si ceux qui nous écoutent se souviendront peut-être de Monsieur Guilbault, qui a été un des présidents, de Jean-Claude Pain, qui a été un de ses directeurs, de Marc Tessier, qui a parlé sur cette antenne il n'y a pas longtemps, et qui a été un de ses présidents assumant aussi des fonctions de direction, et des gens qui étaient des bénévoles et qui se sont souciés de prestations pour que les anciens puissent rester le plus longtemps à leur domicile. Alors aujourd'hui, il y a des missions un peu rénovées pour l'ADES, puisqu'on intervient aussi auprès de familles en difficulté, avec des enfants, avec et puis aussi auprès de jeunes mamans, après un accouchement ou dans une période difficile. Ça veut dire que les prestations aujourd'hui se sont largement décuplées et que la mission de l'ADES reste toujours d'aller auprès des bénéficiaires et auprès d'un nombre important de bénéficiaires, puisque sur le DIWA, c'est près de 450 bénéficiaires aujourd'hui. Alors avec des petites séquences, parfois d'une demi-heure, parfois deux heures, parfois plus. Et c'est pour des prestations extrêmement variables. On va en reparler, je pense.
Vous avez dit au début que c'était un service presque annexe à la mairie. Ça ne l'est pas. Est-ce que vous êtes toujours soutenu par la mairie dans vos missions?
Nous sommes soutenus par la mairie, et en particulier la mairie d'Y nous a donné un bon coup de main, c'est vrai, en fin d'année 2013, mais aussi beaucoup d'autres communes de tout le DIWA. Et ça, on les remercie, on a besoin d'elles et ça va continuer. Mais si vous voulez, depuis les évolutions sur les prérogatives en matière de social, c'est le département aujourd'hui, le conseil général, qui a pour mission de financer tout ce qui est de l'ordre du social, c'est-à-dire aussi bien les personnes âgées, la dépendance, mais aussi le handicap et tout ce qui est social au sens général. Donc aujourd'hui, nos bénéficiaires profitent des financements du Conseil général, ce qui fait que nous sommes largement dépendants de ces financements et de la baisse de ces financements quand elle intervient.
Ce que vous me dites, c'est que alors que le nombre de seniors aurait tendance à augmenter, vos financements sont quand même à la baisse.
Mais en fait, le nombre de seniors augmente, donc le nombre de personnes auprès desquelles il nous faut intervenir augmente en continu, mais le volume d'heures fait auprès d'eux est plutôt en baisse faute de financement. Et ça, c'est vraiment un des soucis, il n'y a pas que nous comme association, mais pour vous illustrer en chiffres, le financement de la CARSAT s'est effondré de près de 50%. Donc pour nous, ça représente une baisse significative sur 2013. Et ça explique le fait que notre objectif en 2014, c'est de faire 5000 heures de plus avec éventuellement d'autres publics ou d'autres services. Donc c'est extrêmement important que cette redistribution des fonds publics.
Vous avez évoqué des soucis financiers. Alors comment avez-vous redressé la barre en fait?
Si vous voulez, personnellement, j'ai été élue coprésidente en avril. On a eu des bénévoles qui sont partis et notre directrice qui a démissionné en juillet 2013, c'est-à-dire à mi-parcours de l'année 2013. Et c'est vrai que nous étions dans une situation extrêmement inconfortable puisque nous avions une prévision d'un déficit de 120 000 euros fin 2013. Autrement dit, pour être très concret pour les gens qui nous écoutent, ça voulait dire vraiment ne pas payer nos salaires à la fin de l'année et ne pas passer le cap de la fin d'année. Donc c'est vrai que début juillet, il a fallu se redresser les manches, dire on est dans le Diwa pour les vacances, mais c'est pas les vacances. On va aller vraiment essayer de trouver des sous pour l'ADES. Donc essayer de trouver des sous à l'intercommunalité, serrer les boulons, parce qu'il y a toujours des boulons à serrer dans des structures, y compris des structures associatives. On a proposé une baisse du temps de travail aux salariés administratifs, et ça s'est fait à partir du 1er septembre. C'est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, on a 2 postes en moins par rapport au mois de juin de l'année dernière. Et puis, on a ramassé tous les sous qu'on pouvait ramasser dans les fonds de tiroir, rentré de l'argent qui n'était pas rentré, apuré des dossiers. Et au bout du compte, on a quand même récupéré près de 70 000 euros. Et ça nous a permis de passer le cap de la fin d'année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est très optimiste, on met encore en place des mesures qui sont pas faciles pour nous à prendre, pas faciles pour les salariés à accepter, notamment une baisse de remboursement concernant leurs kilomètres, les kilomètres qui sont faits pour se rendre sur son lieu de travail le matin et pour rentrer chez soi le soir, qui étaient des kilomètres, ce qu'on appelle nous hors convention, ça veut dire qu'on a une convention collective extrêmement précautionneuse et c'est bien des salariés et qu'il a été mis en place dans les années 2008, il y avait des sous et bon, tout naturellement on a reversé aux salariés sous forme d'indemnité une partie de cette manne. Aujourd'hui, en période de vache maigre, il faut revenir sur ses acquis et dire on n'a plus les moyens de payer ces kilomètres qui sont en plus des avantages de la convention. Et de toute façon, pour être très clair, le Conseil général ne nous donne guère le choix de les maintenir ou pas, puisque c'est notre principal financeur. Donc c'est un peu difficile à entendre et à accepter de la part des salariés, parce que c'est vrai que même 2 kilomètres ou 3 kilomètres en moins par jour, ça représente 20, 30 euros en fin de mois. Mais si on ne le fait pas, on met en péril 80, 85 emplois. Donc il me semble qu'entre les deux, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas à réfléchir. Il y a encore à réfléchir à si on pouvait les trouver ailleurs. Mais je pense que ce qui est prioritaire aujourd'hui pour les salariés que nous avons, c'est le maintien de l'emploi. Parce qu'il est probable que on a essentiellement des femmes encore pour l'instant dans cette association en tant que salariés. Je ne suis pas sûre qu'elles trouveraient tout un emploi sur le Diwa avec des qualifications comme nous en avons aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça se discute et c'est vrai que c'est très compliqué à prendre comme décision. En tout cas, je suis contente de ne pas avoir eu à licencier 2 gens à l'ADES fin 2013.
Alors Déborah Gazit, vous arrivez en période de crise ou post-crise. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour être plus confortable au niveau des finances? Parce qu'on vient d'entendre qu'il a fallu trouver 70 000 euros, mais si je compte bien, il y avait un déficit prévisionnel de 120 000, donc il y avait encore un trou de 50 000, donc il y a encore des efforts à faire. Avez-vous des idées sur ce que vous allez faire pour pérenniser la situation financière de l'ADES?
Oui, tout à fait. Il y a encore des efforts à faire. Je pense qu'il faut poursuivre la politique de maîtrise des coûts. Donc, en optimisant tout ce qui est déplacement, tout en garantissant la satisfaction des bénéficiaires. C'est-à-dire que les interventions doivent être organisées de façon à être cohérent sur le secteur géographique et en utilisant au mieux les compétences de chaque salarié en fonction de leur niveau de qualification, de leurs expériences et de leurs aspirations. Parallèlement, je pense qu'il y a une possibilité de développer l'offre de services. Donc que ce soit par des heures, on va dire, de convenance, donc qui ne sont pas prises en charge, en se rapprochant des mutuelles, en passant des partenariats avec des mutuelles pour tout ce qui est sortie d'hospitalisation, en se rapprochant des services sociaux, des hôpitaux pour les prises en charge au titre de la HAD. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de possibilités à développer, y compris les heures de jardinage, de garde d'enfants, ce qu'on appelle nous les heures en TISF également. Donc je pense qu'il y a une possibilité de développer le volume horaire.
Alors si je peux me permettre, vous avez parlé de qualification. Alors qu'est-ce à dire? Est-ce que ça veut dire que pour travailler à l'ADES, il faut des diplômes? Qui sont vos salariés en fait?
Alors les salariés ont des qualifications différentes qui vont de l'aide à domicile à l'auxiliaire de vie, l'aide-soignante, les TISF, donc auprès des enfants. Alors ce sont des personnes qui ont été formées avant d'entrer à l'ADES ou alors qu'elles étaient salariées à l'ADES au titre du plan de formation, donc où l'ADES finance régulièrement des formations qui permettent à leurs salariés de valider leur expérience professionnelle.
Sur les qualifications, ce que je pense extrêmement important, c'est que ce sont des métiers qui n'ont pas toujours une image très valorisée. Alors qu'en fait, on pense toujours que ce sont des dames qui viennent faire le ménage. Elles font beaucoup plus que ça. Elles entretiennent un lien, elles entretiennent une relation et ce sont des personnes qui doivent avoir un grand respect des personnes chez qui elles interviennent. Donc oui, il y a un large éventail de compétences. C'est vrai qu'une de nos priorités actuellement, c'est d'élever le niveau de qualification et de rendre encore plus satisfaisant les interventions. Mais ce sont des métiers extrêmement larges. La TISF dont parle Déborah, ce sont des femmes destinées à maintenir le lien dans des familles qui sont en train d'exploser, par exemple. Et ça permet à des enfants de rester au domicile, de rester avec leurs parents et de voir s'il est nécessaire de faire un autre accompagnement. En fait, ce sont des mesures destinées à étayer, à accompagner, à faire que les gens puissent rester installés dans leur vie plutôt que d'être transplantés et mis en foyer ou ailleurs, y compris quand ils vieillissent. Mais il faut donner une image de ces métiers plus valorisée, parce qu'on voit bien, quand on rencontre ces salariés, que pour un certain nombre d'entre elles, ce sont des gens qui ont énormément de capacités relationnelles et qui donnent énormément dans ce travail.
Mais alors justement, il pourrait y avoir des gens qui ont ces capacités relationnelles dont vous parlez, mais qui pourraient ne pas avoir de diplôme. Est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour travailler à l'ADES ou pas? C'est obligatoire?
Alors, aujourd'hui, on reçoit énormément de demandes de personnes en recherche d'emploi. C'est obligatoire pour certains métiers d'avoir le diplôme. On a beaucoup de demandes actuellement de gens qui passent et qui nous font des demandes d'emploi, parce que la réalité du chômage, elle est là aussi dans notre région. Je dirais que le travail des responsables de secteur, dont c'est la prérogative, c'est d'identifier si les personnes seront de bons accompagnateurs. Ensuite, les compétences techniques, on va aller chercher. Alors, soit il y a eu des CAP, soit il y a des BEP, soit il y a déjà un niveau de diplôme. En tout état de cause, on va accompagner les personnes qu'on recrute, notamment par du tutorat. C'est-à-dire que les plus anciennes vont accompagner les gens qu'on recrute. Alors, ce sera une journée, ce sera plusieurs jours, selon les personnes, pour se garantir d'un minimum, leur mettre le pied à l'étrier. Mais là, par exemple, vendredi, on a un jeune homme qui est passé. Et c'est vrai qu'on se disait, ce serait bien aussi qu'il y ait des hommes, parce que c'est un métier où on a quasiment que des femmes. Et c'est vrai aussi que, comme interlocuteur des plus anciens, c'est bien aussi qu'il y ait des hommes. Ça fait partie de la diversité. On est dans une autre problématique que beaucoup d'autres métiers, mais c'est la nôtre aujourd'hui. Ce qui fait que non seulement on prendra des gens, s'ils n'ont pas le niveau de diplôme au démarrage, on fera en sorte qu'ils puissent suivre ce qu'on appelle des VAE, c'est-à-dire des validations des acquis de l'expérience, qui leur permettront d'accéder à des niveaux de diplôme. C'est ça ce qui va nous créer une dynamique chez nos salariés pour que ce métier soit plus attractif qu'il ne l'est encore aujourd'hui.
Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, à savoir que, enfin, vous l'avez suggéré et tout le monde le sait, c'est que maintenir des personnes âgées à domicile, c'est d'abord plus humain et ça coûte sûrement moins cher que de les mettre en structure spécialisée. Est-ce que le fait que les pouvoirs publics, le département, les hôpitaux, les maisons de retraite le savent, est-ce qu'ils participent d'une façon ou d'une autre à votre financement? Je suis peut-être un peu naïf, hein.
Alors, c'est vrai que l'ensemble de nos partenaires sait bien que les interventions sont indispensables au maintien à domicile. En même temps, ce qui est très compliqué dans notre activité associative, c'est que il y a comme une invisibilité. C'est comme si on était un peu des fantômes, parce que finalement, quand il y a intervention au domicile, on ne voit pas les gens. Donc, par définition, on est une association qui a peu de visibilité effective. On est au domicile des personnes, on est à leur côté, on n'est pas visible dans un lieu donné. Les partenaires qu'on a, notamment au sein du CLIC, à l'hôpital, dans les assistants de services sociaux, savent très bien la qualité du travail qui est fait par l'ADES depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette reconnaissance et les financements? Oui, moi je suis persuadée qu'aujourd'hui tout le monde sait que quand une place dans une maison se négocie à 1800 euros par personne et par mois, certes c'est une vraie contrainte parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas des montants de retraite suffisants pour se permettre d'aller dans ces maisons. En plus, ce n'est pas du tout adapté à des gens de moins de 75 ans, je dirais à peu près. Entre 60, 65, 70, 75, c'est pas du tout la même chose. Donc l'aspiration à de l'autonomie, à rester chez soi, à rester dans ses meubles, c'est extrêmement important. Et c'est pas parce qu'on est âgé, vieux, qu'on n'a pas le droit du choix de sa propre vie. Donc je pense que, moi, pour l'avoir vécu avec mes propres parents, je trouve que c'est un des choix les plus essentiels qu'on puisse faire que de choisir de rester. Alors quand les gens sont en couple, ça me semble encore plus évident, mais de pouvoir rester chez soi, mais par contre, il faut organiser tout le réseau autour d'amis, de relations, de visites à domicile pour que ça se fasse en sécurité. Il y a un moment où ça ne se fait plus en sécurité. Et un des soucis que nous avons, c'est le problème d'ailleurs qu'on traite quand on forme les gens. Là, on avait une session de formation sur la maladie d'Alzheimer. À partir de quel moment la personne ne pourra pas rester chez elle? Et c'est un moment très compliqué à identifier. Ça fait partie du métier de nos intervenantes que de dire attention et puis d'alerter d'autres services pour dire peut-être que là, il faut aller regarder de plus près. La personne est en danger pour elle-même ou elle met en danger par certains comportements. Donc c'est à la fois de maintenir le plus longtemps possible et puis de savoir qu'à un moment donné, c'est plus notre ressort.
Oui, mais alors ma question était quand même, est-ce que les services, vous avez parlé du CLIC, du département, etc., les services qui savent la qualité de votre travail, même s'il est invisible, prennent en compte vos besoins? C'est quand même assez anormal qu'une association qui travaille pour le maintien à domicile, alors que tout le monde sait que c'est moins cher, n'ait pas les moyens de fonctionner. Donc, y a-t-il une réflexion collective, d'ensemble à mener pour trouver les moyens de faire en sorte que votre association puisse fonctionner correctement?
Vous avez raison. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire qu'on a assez. C'est sûr qu'il n'y a pas assez. Alors, si vous voulez, une des principales difficultés, c'est notre zone géographique. Nous intervenons jusqu'à la Motte-Chalancon et nous intervenons au-delà de Saillant jusqu'à Oust aujourd'hui. Ça veut dire que quand nous avons une intervention, nous sommes rémunérés pour le temps de cette intervention, ce qui est quand même le minimum. Mais la grosse difficulté, c'est que nous ne sommes pas rémunérés pour ce qu'on appelle l'intervacation, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir à une de nos salariées pour passer d'un bénéficiaire à un autre. Ce sera peut-être un quart d'heure, ce sera peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure. Or, nous, nous devons rémunérer la salariée. Et en plus, nous indemnisons des kilomètres. Alors, le taux d'indemnité kilométrique n'est pas hyper élevé, il est de 0,37, mais ça participe de la rémunération des salariés, c'est extrêmement important. Sauf que ça, ça n'est pas pris en charge dans le taux horaire qui nous est imparti pour le financement de nos interventions. Donc toute la difficulté aujourd'hui, et ça on le fait alors un peu patiemment auprès de chaque municipalité, c'est de faire valoir que quand on va à l'EMS dans le sud, oui, c'est plus coûteux, surtout là on est dans un épisode de neige, c'est compliqué. Les intervenantes travaillent avec leur véhicule. C'est très compliqué à certains moments. La semaine dernière, on a passé 2 jours de cauchemar à redistribuer des interventions parce qu'on n'accédait pas à certains endroits avec la neige. Donc, si vous voulez, il faut que l'ensemble de nos financeurs se rendent compte que, certes, on fait l'heure, mais on fait au-delà de l'heure. Et quand on forme les intervenantes et quand on fait des groupes d'analyse de pratique, tout ça n'est pas pris en compte dans le tarif horaire qui est pourtant élevé, c'est vrai.
D'où l'intérêt de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'organiser des tournées les plus efficientes possibles.
Oui, tout à fait. En prenant en compte aussi notre contrainte au niveau de l'annualisation des heures de travail. Nous devons aussi d'équilibrer les compteurs d'heures de manière à ce que les personnes aient leur temps de travail annuel et en maîtrisant les compteurs pour ne pas non plus qu'on ait trop de majoration qui nous est imposée conventionnellement.
Les compteurs, ça veut dire qu'en fait, par la convention collective, on garantit à toutes nos salariés un niveau de rémunération, quelle que soit l'activité. Donc il y a une marge qui fluctue en plus et en moins, mais elles sont assurées d'un niveau de rémunération, ce qui est logique du point de vue salarial. Extrêmement compliqué à réaliser dans cet ajustement entre les heures distribuées et le travail effectué.
Quelle que soit la quantité de temps qu'elle travaille, et je suppose qu'il y en a un certain nombre, voire même la majorité qui travaille à temps partiel.
Elles travaillent presque toutes à temps partiel. Et alors pour un certain nombre de ces femmes, c'est aussi un choix
par rapport à leurs enfants, c'est aussi un choix de vie. Mais pour certaines, c'est vrai qu'elles souhaiteraient faire plus d'heures aussi, notamment celles qui sont seules avec des enfants et qui disent du travail. En ce moment, on est en train de rechercher des heures plus nombreuses pour leur donner encore plus de travail, parce que c'est pas des emplois très bien rémunérés. C'est vrai, compte tenu de leur importance sociale, c'est pas des emplois les mieux rémunérés dans la société, ça je crois, c'est clair.
C'est-à-dire elles sont payées un peu plus que le SMIC ?
Elles sont payées un peu plus que le SMIC et ça varie avec leur ancienneté. On a des femmes qui ont 20, 25 ans d'ancienneté, donc ça varie avec l'ancienneté et le niveau de qualification. C'est pour ça que c'est extrêmement important que d'avoir une politique de formation et d'évolution au sein de l'association, parce que c'est ce qui leur permettra d'arriver à des niveaux de salaire corrects par rapport au salaire de début. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est de voir qu'elles sont payées à la fois sur la vacation effective, sur l'indemnité kilométrique qu'elles ont, et tous ces éléments-là participent à leur salaire. Alors il y a souvent des gros débats sur les salaires avec ce qu'on appelle les CESU. Les CESU, ce sont les femmes qui font ça à titre individuel auprès des personnes. Et c'est vrai que c'est un peu moins cher au niveau horaire qu'une association comme la nôtre. Cela étant, il n'y a pas toute la garantie pour les bénéficiaires d'avoir quelqu'un, je sais pas, pendant la période de vacances, d'avoir des gens qui se forment. Et les salariées elles-mêmes, elles n'ont pas les avantages en indemnité kilométrique, par exemple, que nous garantissons aujourd'hui à nos salariés. Mais pour aller jusqu'au bout de votre question sur les rapports avec les différentes tutelles, on a un débat très serré actuellement avec le Conseil général qui nous demande d'indemniser à 0,35 le kilomètre effectué. Or, nous indemnisons à 0,37. Et pour l'instant, nous maintenons et nous défendons le fait de continuer cette indemnité à 0,37. Mais pour vous dire que quand on fait 67 000 heures d'intervention, forcément, et 345 000 kilomètres, c'est pas les 2 centimes, c'est la multiplication des 2 centimes qui fait que c'est extrêmement compliqué à gérer. En fait, on est une association, mais on est une association qui aujourd'hui ne se gère plus comme une petite association. On se gère plus comme une entreprise, il n'y a pas un gros mot, mais on doit se gérer avec les mêmes exigences qu'une n'importe quelle organisation et on ne peut pas passer outre. Et je pense qu'il y a eu des périodes où on a passé outre et c'est un peu ça qu'on a payé dans la période récente.
Vous n'avez pas le droit à l'amateurisme en matière de gestion. J'espère que vous en êtes bien persuadé.
Oui, tout à fait.
Vous qui commencez alors dans une période de crise, ça doit. Alors, est-ce que l'humeur des gens qui sont dans ce bateau qui a tangué et qui est en train de se remettre, est-ce que ça se ressent dans les rapports humains, dans l'équipe administrative et ceux qui sont sur le terrain? Est-ce que vous sentez une tension?
Alors, pour l'instant, je vous parlerai que de l'équipe administrative. Je pense que l'équipe administrative a compris l'importance de ce qui s'est passé durant ces derniers mois et est prête aujourd'hui à retrousser les manches. Il faut mettre en marche de nouvelles démarches managériales. J'allais dire responsabiliser. C'est pas responsabiliser. C'est chaque responsable de secteur doit gérer son équipe avec ses tripes et arriver en soutien des intervenants à domicile, mais également être capable d'avoir des décisions justes et motivées et de manière à tirer vers le haut l'ensemble de leur équipe. Donc je pense qu'il faut mettre en place cette délégation auprès des différents responsables de secteur et je sens qu'aujourd'hui, ils ont aussi envie d'y aller et de prouver ce que leurs équipes sont capables de faire.
Donc vous êtes optimiste?
Oui, tout à fait.
Je pense qu'il y avait une petite réaction sur le fait que leur nouvelle directrice est quelqu'un de jeune. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un atout d'avoir quelqu'un de jeune qui apporte une énergie et une sensibilité différente. C'est pas parce que notre public est plutôt un public de personnes âgées qu'il faut qu'au niveau du pilotage et de la gouvernance, on soit en miroir. Et je pense que nos bénéficiaires qui sont âgés ont toujours aussi beaucoup de plaisir à avoir des gens plus jeunes. Donc je pense que cette énergie-là, elle est extrêmement présente aujourd'hui auprès de l'équipe administrative. Il reste à la faire diffuser sur l'ensemble du terrain. Et bon, c'est en train de se faire. Ça va se faire dans les prochains jours avec des réunions multiples. Une des priorités de notre nouvelle directrice, c'est d'aller sur le terrain et d'aller avec son bâton de pèlerin aux quatre coins du département pour soutenir les équipes de terrain.
Vous avez parlé du CLIC d'Iwa. Alors, il se trouve que j'ai interviewé Martine Chazelle du CLIC il n'y a pas 15 jours, 3 semaines. Et donc, qu'est-ce que vous faites en commun avec cette structure qui fédère un peu toutes les énergies dans la politique personnes âgées dans le d'Iwa?
Mais en fait, le CLIC, oui, c'est une instance du Conseil général. C'est des instances de décentralisation extrêmement importantes pour le Conseil général, pour vraiment être présent sur le terrain.
C'est une instance de coordination des différentes énergies. Donc à ce titre-là, c'est tout à fait important. Et c'est vrai qu'on a eu une commission gérontologique il y a très peu de temps, là il y a 15 jours, 3 semaines. Je dirais que pour moi, en tant que responsable d'une grosse association, c'est super important. Et je sors d'une réunion du CLIC avec généralement 5 dossiers nouveaux à traiter, ce qui est bien. Sauf que nous, dans nos contraintes aujourd'hui, c'est une énorme contrainte supplémentaire parfois. Parce que si vous voulez, le rôle du CLIC, c'est de la coordination d'énergie présente sur le terrain. Ceux qui font, ce sont ceux qui sont déjà là. Donc si je prends, par exemple, on a eu un débat sur la maladie d'Alzheimer. C'est vrai qu'ils cherchent à coordonner l'ensemble des énergies sur la maladie d'Alzheimer. Et moi, j'ai fait valoir que ça faisait un moment qu'on travaille, nous, sur cette maladie, parce qu'on a nos intervenantes, on a une trentaine de bénéficiaires qui sont malades. Et effectivement, c'est au cœur de nos préoccupations. Donc nous, il faut qu'on arrive à rendre plus visible ce qu'on fait pour être de bons partenaires du CLIC. Mais là, je sais que on a 5 dossiers sur lesquels on s'engage, sur la prévention du suicide chez les anciens, qui est une de nos préoccupations. On a un dossier autour de la maladie d'Alzheimer, un dossier sur tout ce qui est culture. Et là, on commence à mettre en place des vraies initiatives au niveau culturel pour les bénéficiaires. Et puis, on a la fameuse semaine bleue, comme on a fait cette année, avec où nous avions fait 2 animations. Une animation avec des enfants et avec le centre social sur la lecture de livres avec des enfants le mercredi. Et le samedi, nous avions diffusé un film qui s'appelle « J'y suis, j'y reste », qui a été financé par la Fondation Leroy Merlin et une mutuelle, et qui filmait un certain nombre de nos bénéficiaires ici dans le Diwa. Donc il y a eu un vrai plaisir à voir nos bénéficiaires dans nos environnements, devant le Glandas et tout, filmés et vus dans leur environnement proche pour montrer quelles sont les conditions pour qu'on puisse rester chez soi, c'est-à-dire aménager une salle de bain, faire attention aux marches, enfin tout un tas de choses extrêmement simples, mais qui mettent en péril la personne âgée si ces aménagements ne sont pas faits. Donc nous avons collaboré à la Semaine Bleue en octobre dernier de façon importante. Et oui, évidemment que nous sommes des partenaires importants du CLIC et de Martine Chazelle sur l'ensemble du Diwa.
Vous avez 80 salariés qui s'occupent d'à peu près 450 bénéficiaires. Mais reparlons un petit peu de ces salariés. Est-ce que vous pourriez nous décrire quelle typologie de salariés? Est-ce qu'ils sont aussi vieux ou vieilles que les gens
heureusement que non.
dont ils s'occupent? Y a-t-il des gens qui ont encore la vocation?
Alors, et c'est vrai qu'il y a une grande diversité de profils hein, dans nos salariés. Bon, c'est, je vais pas dire hélas, c'est essentiellement des femmes, mais oui, c'est grande majorité. On a 2 hommes, enfin un sur l'autre en recrutement. On a un groupe de salariés anciennes. Là, je saluerais presque Colette qui nous a quittés là, il y a un mois et qui est partie à la retraite joyeusement. Des salariés qui ont passé 20, 25, 30 ans, 35 ans à l'ADES et qui sont très engagés, très proches, avec des valeurs extrêmement fortes par rapport à cet engagement salarié qui est bien au-delà que d'un engagement de salarié, ça c'est clair. Donc on a ces femmes-là qui ont 50 et plus, jusqu'à 60 ans. On en a une ou deux qui ont 62, 63 ans. Mais vous voyez bien qu'en vieillissant, c'est compliqué de soulever les personnes, de les matériellement. Il y a des choses très physiques hein, à faire dans ce métier. Donc on a aussi toute une autre partie de salariés beaucoup plus jeunes, beaucoup plus dynamiques et on sent bien qu'elles, il va falloir un peu plus les... On fait beaucoup de réunions entre elles pour qu'il y ait des formes de transmission des valeurs de notre engagement auprès des personnes. C'est vrai qu'on est dans une période où tout devient très facilement marchandisé, je dirais. Là, on n'est pas dans la marchandisation. Il faut absolument que la personne qui intervienne auprès d'une personne âgée soit investie de l'utilité et du caractère essentiel de ce qu'elle est en train de faire. C'est pas le ménage qui est essentiel. L'autre jour, je disais à un petit-fils qui nous appelait pas content parce que le sol était un peu collant quand il était venu. Je lui ai dit, monsieur, nous sommes intervenus 1 heure. On a consacré ce temps à préparer le repas de votre grand-mère. Et c'était plus important pour nous que, plutôt que le sol brille, vous n'avez consacré qu'une heure. Cette heure-là, nous essayons de la mettre au centre de l'utilité pour la personne, plutôt qu'au centre des apparences qui sont peut-être importantes pour les gens autour ou au loin de la personne âgée. Mais le plus important, c'était qu'elle déjeune, qu'elle échange, qu'elle parle, qu'elle boive peut-être un petit café, parce que ça fait partie du temps de l'intervention. Alors, je dis pas que le temps d'intervention, c'est toujours que ça, hein, parce qu'il semblerait qu'il y ait des moments où ça peut être beaucoup, beaucoup. C'est un juste équilibre. Donc, les anciennes, elles savent bien faire. Les jeunes, il y en a qui savent bien faire aussi. On a à former systématiquement tous les gens qui arrivent, et on en a. Parce que dans le DIY, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ce métier-là aussi.
Est-ce que ça se trouve encore des gens qui ont ce sens de cette mission essentielle pour ces personnes âgées ?
Oui, ça se trouve. C'est peut-être à nous de le repérer, c'est peut-être à nous de le détecter ou de le confirmer. Je vais vous prendre un exemple. Là, on a une nouvelle directrice qui arrive, mais on a aussi une nouvelle secrétaire comptable qui arrive, qui s'appelle Pascal ETV. C'était important que même en tant que secrétaire et en tant que comptable, elle ait une vraie conception de l'accueil, une vraie conception de la relation aux personnes. Et quels que soient les postes qu'on occupe, ça doit être présent. Quel que soit l'âge qu'on a, ça doit être présent, parce que moi, je pense que ça transpire dans la façon dont on est, dans la façon dont on a une relation aux gens. Donc, même au niveau administratif, il faut qu'on soit investi de cette... Alors, mission est peut-être un mot un peu connoté, un peu ancien, un peu... Je sais pas. Mais en tout cas, que les gens qui font ce travail de relation auprès des personnes handicapées, auprès des familles ou auprès des anciens, aient envie d'être auprès d'eux. Et pas qu'ils fassent ça parce qu'ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit d'autre. Moi, qu'on ait taillé des vignes ou fait autre chose pendant l'année, tant mieux si ça participe à l'ouverture et au fait que les gens ont quelque chose à raconter et qu'ils sont heureux aussi de faire ce métier. Donc, je pense que notre engagement à nous, c'est d'identifier des gens qui ont envie de le faire, qui ont encore envie de le faire, et s'ils ont moins envie, d'essayer d'identifier pourquoi il y aurait une baisse de motivation et pourquoi ils auraient moins envie. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est une belle alchimie entre, d'un côté, un conseil d'administration avec des bénévoles qui sont souvent là depuis longtemps. D'ailleurs, j'en profite parce que je fais presque un appel. J'ai besoin de nouveaux administrateurs au moment où on fera notre prochaine assemblée générale. C'est extrêmement important. C'est le cœur de l'association, du bénévolat, de l'engagement. Et normalement, le conseil d'administration est garant un peu de l'orientation de l'association, orientation qui est mise en œuvre par sa direction auprès de l'ensemble des salariés. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail de coordination entre ce conseil d'administration, l'équipe de cadres et l'équipe de salariés. C'est tout ça, on doit avancer dans le même sens. Et notre objectif, c'est d'être auprès des bénéficiaires et de fournir un service et une relation de qualité. Et je pense que dans le DIY, on trouve des gens qui ont envie de faire ça aujourd'hui auprès de tous ces publics très divers.
Alors, il y aura un difficile équilibre à trouver quand vous arrivez avec votre mission de tailler un peu dans le vif, puis avec un langage un peu managérial, entre justement cette mission où on a besoin de cœur à l'ouvrage et de respect des valeurs humaines, et pourtant il va falloir être précis dans la façon de motiver les... Enfin, tout le vocabulaire que vous avez employé tout à l'heure était assez capitalistique, j'irais, d'une entreprise, quoi.
Pour pérenniser la structure, il est nécessaire à un moment donné d'avoir une politique de maîtrise des coûts, mais cette politique doit être mise en œuvre en donnant un certain nombre d'explications et avec des décisions motivées et en étant juste, entre guillemets, dans ces décisions. Et je pense que si on est juste dans ces décisions et qu'on donne des explications, que les décisions soient réellement motivées auprès des salariés, je pense qu'au contraire, les salariés en sont davantage reconnaissants et ça permet de participer à la volonté de chacun d'accroître le niveau de qualité.
Je ne pense pas que ce soit un discours capitalistique. Je pense qu'aujourd'hui, réussir à fournir des services dans de bonnes conditions, ce n'est pas capitalistique. Ce qui est capitalistique, ce serait d'utiliser les ressources publiques à d'autres finalités. Ça, ce serait méchamment capitalistique.
Non, mais je faisais allusion à un certain type de terminologie. Hein. J'ai fait une école de commerce, donc je suis particulièrement sensible à ça. Par exemple, vous allez dans un McDonald's et c'est le manager et il utilise des trucs pour motiver son équipe. Ils ont des points. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans
on
les
va essayer de ne pas faire des trucs à la con. Quoi. C'est juste ça la différence. Mais on est dans un réseau de contraintes extrêmement complexe dans une association de ce type. 68 500 heures découpées en petites tranches d'une demi-heure ou d'une heure, réparties sur tout le territoire. Ben ça, c'est au niveau informatique, je ne vous dis pas ce qu'on rigole.
J'ose pas imaginer, mais je vous suis. Juste une petite dernière question avant de se quitter, parce que là, ça fait un bout de temps qu'on parle et il ne s'agirait pas de semer nos auditeurs. Vous avez dit quelque chose qui m'a fortement inquiété, le coût d'une personne âgée dans une résidence spécialisée de 1800 euros par mois.
Minimum.
Que se passe-t-il pour les gens qui n'ont pas les moyens? Alors, ils restent chez eux, ils meurent ou que se passe-t-il? Que fait-on d'eux?
Que fait-on d'eux? Justement, rien que de poser la question comme ça, que fait-on d'eux? Qu'ils puissent faire quelque chose d'eux-mêmes le plus longtemps possible. Ben, c'est ce qui vous explique que vous avez un certain nombre de personnes qui se trouvent dans les hôpitaux parce qu'il y a une prise en charge. On ne va pas savoir quoi faire d'eux dans les années à venir. Vu la montée de toute cette génération grise, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, pour quelle qualité de vie? La question, c'est pas de durer jusqu'à 110 ans. La question, c'est combien de temps vit-on au mieux en bon état de santé et avec, je veux dire, toute sa tête, même une partie. Mais il y a des structures qui sont superbes hein, sur le DIWA et bien entendu qu'elles ont leur place et heureusement qu'elles sont là. Mais vous voyez bien qu'au niveau démographique, on pourra pas mettre toutes les personnes en institution. Et puis, qu'est-ce que veut dire une société où on aurait toute une partie de nos personnes handicapées ou de nos vieux dans des institutions? Il y a aussi cette question-là sur le vivre ensemble qui est posée derrière nous, cette mission qu'on a, parce que les gens qui restent chez eux, ils vivent encore dans leur réseau d'amitié, de voisinage, et c'est extrêmement important. Dans les villages, on voit bien que c'est extrêmement important. Quitte à ce qu'il y ait des systèmes d'entraide, et nous en sommes, même en étant professionnalisés, nous sommes dans ce réseau d'entraide. Mais moi, j'imagine mal une société où on aurait des petites cases où tout le monde serait bien rangé.
On ne sait pas quoi faire d'eux, mais le mieux qu'on puisse leur souhaiter, c'est de s'assumer le plus longtemps possible.
Oui, et qu'on puisse les écouter et écouter ce qu'ils ont à nous dire le plus longtemps possible et écouter leur niveau d'aspiration. Je pense que pour une grande majorité, ils savent ce dont ils sont capables. Donc qu'on puisse entendre leurs aspirations, que ce ne soit pas que les aspirations de la famille ou des enfants et tout. C'est sûr que c'est rassurant de mettre un parent dans une maison parce qu'on sait où il est et on sait qu'il y a moins de risques. Mais le plus important, c'est qu'ils puissent dire ce qu'ils ont envie de faire et là où ils se voient vivre.
Eh bien, Déborah Gazit et Dominique Vidal, je vous remercie d'avoir accepté de parler de l'ADES à la radio. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.
À bientôt, merci. Oui.
Merci, au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.